Dutrisac.
Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
Lundi, on rentre, on fait des entrevues, on règle ça. Vous avez vu à McGill University à Montréal, il y a des campements depuis samedi. Les gens veulent qu'on arrête d'investir dans les compagnies juives ou israéliennes. Mais c'est un mouvement qu'on voit partout en Europe, aux États-Unis. Avec nous, Lucas Jakubowicz, qui est journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine. C'est en France. Monsieur Jakubowicz, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être de retour à l'émission. Je vous lis sur X, là, je vous suis à partir de Montréal, parce que tout est anglicisé ici, là, je ne sais pas si vous le savez. J'ai vu ce qui se passait à Sciences Po, j'ai vu ce qui se passe à Sorbonne. Racontez-nous ce qui se passe chez vous en France avec ce mouvement qu'on dit pro-palestinien, peut-être pro-Hamas aussi.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, les étudiants en France et partout en Occident sont, depuis des décennies, on va dire, assez nombreux à s'engager pour des causes. En ce moment, c'est la cause palestinienne. Et donc, c'est vrai que depuis le 7 octobre, dans les universités en France, il y a beaucoup d'étudiants qui soutiennent la Palestine, ce qui peut se comprendre. Le problème, c'est que depuis quelques mois, ou plutôt depuis quelques semaines, il y a des groupuscules très extrémistes, voire antisémites, qui s'incrustent dans certaines universités, qui font la pression sur les élèves, qui font la pression sur des universités, et c'est typiquement ce qui est en train de se passer à Sciences Po Paris.
Et quand vous dites pression, faire pression, blocage, c'est comme on dit au Québec, ça bardasse. Il y a des échauffourées, il y a des gens qui se poussent, il y a Mélenchon qui se présente. C'est pas calme là, la situation.
Non, c'est pas calme. Et par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et puis au Québec, peut-être, je sais pas pour le Québec, il y a deux différences. Aux États-Unis, si vous voulez, quand il y a eu des cas d'antisémitisme qui ont été avérés dans les universités, les directrices ont été mises sur la sellette et certaines ont été virées. Mm-hmm. Ce qui s'est passé en fait à Sciences Po, c'est qu'il y a eu effectivement des cas, en tout cas des soupçons d'antisémitisme assez forts. Des élèves qui avaient des menaces de recevoir des sanctions disciplinaires, notamment en Sciences Po Paris. Mmh. Et ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, c'est qu'en fait, la direction de Sciences Po s'est défilée et a décidé de faire sauter toutes les sanctions qui auraient pu toucher des élèves violents ou antisémites.
Alors, quel message ça envoie, ça?
Alors, en France, il y a un terme qui est assez connu qui s'appelle « pas de vague ». Je ne sais pas si ça s'utilise au Québec, c'est un terme qui touche notamment l'éducation nationale et la fonction publique. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix préserver la réputation d'un établissement, d'un master, d'une école. Et donc, en fait, on a tendance à cacher les cas problématiques. Mm-hmm. Et on a l'impression que c'est ce qui s'est passé à Sciences Po la semaine dernière. Et en fait, il y a quelque chose qui ulcère énormément les Français dans cette affaire. Si vous voulez, il y a deux semaines, je crois, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes dans l'amphithéâtre principal de Sciences Po. Des manifestations qui n'étaient pas autorisées parce qu'il n'y avait pas eu de demande. Donc c'est des personnes qui ont bloqué un cours. Visiblement, il y a eu des étudiants considérés à tort ou à raison comme juifs qui ont été traités de sales sionistes et qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Mmh. Un peu comme à Columbia la semaine dernière. Donc ça a fait scandale et ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu sur place, a dit que effectivement l'université Sciences Po devait rester un lieu de débat, de démocratie, etc., etc., que la République ne reculera pas, enfin toutes les phrases habituelles.
Ouais.
Et en fait, on se rend compte que toutes ces paroles ne sont que du vent, puisque dans les faits, la direction de Sciences Po a entre guillemets absous des étudiants qui auraient mérité sanction. Alors là encore une fois, il y a quelque chose de bizarre parce que c'était ce week-end. Donc vous avez la direction de Sciences Po qui dit on a négocié avec... Alors d'abord, on négocie avec des groupes qui bloquent et qui insultent. Donc déjà, ça c'est assez problématique. Donc on négocie avec eux, on leur fait des concessions. Et vous avez la ministre de l'Enseignement supérieur qui félicite la direction de Sciences Po d'avoir fait des concessions. Et dans le même temps, vous avez le Premier ministre qui, en principe, a autorité sur la ministre de l'Éducation nationale qui dit ce qui se passe à Sciences Po, c'est très grave, il faut sévir. Donc on a l'impression qu'il y a un flou au sommet de l'État.
Lucas, expliquez-nous au Québec, là, Sciences Po, là, ce que ça représente dans le monde de l'éducation en France.
Alors, pendant très longtemps, Sciences Po s'était considéré comme l'école de formation des élites. La plupart des présidents de la République, des membres du gouvernement, des chefs de grandes entreprises sont passés par Sciences Po Paris ou par des succursales de Sciences Po Paris en province ou par des IEP, c'est-à-dire des instituts d'études politiques, donc c'est des Sciences Po, mais en province. Traditionnellement, c'est assez difficile d'entrer dans un Sciences Po. C'est ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, c'est-à-dire que chaque année, il y a un concours avec des concours écrits en histoire, en langue, en culture générale, et globalement, les 10% meilleurs élèves sont pris. Ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, au nom de l'égalité des chances, de la non-discrimination, etc., ces concours écrits ont été quelque peu amendés. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple beaucoup plus simple. Non, on a toujours 10% de taux d'entrée, mais les critères pour être admis ne sont plus forcément et uniquement l'existence académique. La performance académique. Il y a selon qu'on vienne de banlieue ou pas de banlieue, de Paris ou de province. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et moi, à cet égard, je peux donner à vos auditeurs québécois un exemple qui est assez flagrant.
Allez-y.
Donc moi, je suis originaire de la campagne, enfin d'une zone rurale. Et les zones rurales sont traditionnellement les zones qui ont le moins de chances d'accéder à Sciences Po. Donc je fais partie d'une association qui accompagnait des jeunes lycéens de zones rurales pour préparer les concours Sciences Po. Et en fait, j'avais une élève qui était excellente, vraiment très très forte en culture générale, qui avait lu plein de livres, qui avait vraiment préparé son concours, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Et en fait, elle arrive le jour J, et on lui demande juste d'analyser, en 10 minutes, une photo, je crois, de la Libération de Paris. Et en fait, le jury ne prend plus forcément en considération l'excellence académique, mais aussi selon qu'on soit homme, femme, peut-être son positionnement politique, j'en sais rien. Et inversement, et alors là c'est quand même très cynique, j'avais un autre élève qui lui était d'origine, enfin il n'était pas d'origine française, il était d'origine extra-européenne, et lui disait « mais moi en fait je vois pas pourquoi je travaillerais pour préparer le concours, parce que d'office je serais, j'aurais plus de chances d'être admis ». Donc c'est vrai que par rapport aux années précédentes, c'est plus forcément les meilleurs élèves qui sont pris à Sciences Po, ou dans les instituts d'études politiques, et quand bien même ce seraient les meilleurs élèves, il faut savoir que la France, depuis 10 ans, c'est un pays qui est en pleine dégringolade dans les classements PISA. Donc c'est les classements qui mesurent en fait la performance des élèves. Voilà. Donc de toute façon, les têtes de classe françaises d'aujourd'hui sont globalement beaucoup moins fortes, notamment en sciences, en orthographe, en français, que les générations d'avant. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une baisse du niveau, une baisse de l'esprit critique, qui rend des jeunes, en fait, plus manipulables, des gens qui veulent les manipuler.
Ouais. Alors là, on est contre l'élitisme, évidemment, Lucas. Quand on voit que les groupes d'étudiants, là, pro-palestiniens, ouais, qui ont, est-ce qu'ils se sont retirés de Sciences Po? Est-ce qu'ils se sont, ils ont laissé quitter les lieux ou ils sont toujours présents?
Alors ça dépend. Alors là, je crois qu'ils sont plus présents aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les groupes entre guillemets pro-palestiniens, beaucoup ne viennent même pas de Sciences Po Paris. Si vous voulez, sur le campus de Sciences Po Paris, vous avez 2000 étudiants. Il y en a une centaine, donc c'est vraiment peu, qui sont vraiment actifs. Et à cela s'ajoutent des militants qui sont pas de l'IEP, qui viennent aussi faire leur travail, c'est-à-dire militer.
Et quand on voit que le Hamas les soutient et les applaudit, quand on voit que l'Iran, le régime iranien les applaudit, les soutient. Il n'y a personne qui se pose des questions sur les références, qui sont ces gens-là, la grande œuvre humanitaire que pratiquent l'Iran et le Hamas. Je comprends pas.
Il y a déjà une jurisprudence, c'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas s'il y a ça au Québec, mais en France, il y a ça, il y a des LGBT pour Gaza, LGBT pour la Palestine.
Ouais.
Donc vous avez des militants gays qui vont manifester en fait en criant Intifada, Intifada, pour des groupes qui, à Gaza, balancent les homosexuels du haut d'un immeuble. Ouais. Alors c'est très rigolo, parce que dans l'actu actuellement, il y a aussi beaucoup de... Enfin, on parle beaucoup de l'Iran, avec par exemple des femmes qui se font emprisonner parce qu'elles enlèvent leur voile, ou bien un rappeur récemment qui a été condamné à mort. Et en fait, on a l'impression que les étudiants soi-disant progressistes de France vont être plus investis pour soutenir implicitement le Hamas que pour soutenir les gays en Iran. Et donc évidemment, ça fait rire le régime des Mollahs qui les félicite et qui récupère aussi le truc. Mais je pense que beaucoup d'étudiants n'en ont pas compte. Ils sont totalement, ils subissent peut-être un lavage de cerveau pour certains.
Alors que l'information n'aura jamais été aussi facile à obtenir. À l'âge que j'ai, moi, il fallait ouvrir les journaux, il fallait vraiment faire des efforts pour lire ce qui se passait. Ouais. Aujourd'hui, c'est disponible n'importe où, n'importe quand.
Mais de facto, elle est assez difficile, parce que si on prend, par exemple, le cas de Sciences Po Paris,
ouais.
Si un élève se dit, non, mais en fait, juridiquement, est-ce que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide ou pas? Il a peut-être même plus le droit de poser la question. Et quand on dit, en plus, vous parlez de génocide, mais visiblement, les Nations Unies parlent d'un risque possible de génocide. Donc déjà, les étudiants estiment qu'il y a un génocide sans pouvoir discuter de la pertinence du terme. Sachant que vraiment, Sciences Po, c'est un lieu de débat, à la base.
Politiquement, Lucas, qui en tire avantage de cette situation?
J'ai envie de vous dire que c'est... En vrai, c'est la France Insoumise, donc le parti d'extrême gauche, qui essaye de tirer avantage de la situation. Après, est-ce qu'il tire avantage de la situation ou pas? Au global, pas forcément. Il faut savoir que la majorité des Français, en fait, n'en ont rien à faire du conflit entre Israël et le Hamas. C'est vraiment, on va dire, c'est pas dans leur quotidien.
Ouais.
Mais par contre, quand on voit des images de chaos, quand on voit des élites qui sont en pleine compromission, parfois avec, ben, par exemple, avec le Hamas ou avec la République islamique d'Iran, ça peut-être pousser beaucoup de Français, en fait, neutres qui regardent les infos, ben, plutôt voter l'extrême droite. Donc, moi, j'ai bien peur que ce soit plutôt l'extrême droite qui en tire les marrons du feu. Et d'ailleurs, en parlant de l'extrême droite, enfin, si j'ai 30 secondes pour dire quelque chose qui peut-être aussi intéresser au Québec. Je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, mais en France, il y a quand même un gros clivage entre les élites politiques, médiatiques et la population. À Sciences Po Paris, vous aviez en 2022 un sondage pour demander aux élèves pour qui vous voteriez à la présidentielle. C'était Mélenchon qui était majoritaire, à plus de 50%. Quand on fait des études donc pour les prochaines européennes et qu'on regarde le vote des 18-24 ans au global, c'est le Rassemblement National, donc l'extrême droite, qui est aux alentours de 40%. Donc en fait, ça peut être un danger à terme pour la démocratie, c'est-à-dire que vous avez les élites, et moi-même j'en fais partie, médiatiques, politiques, intellectuelles, qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde que
le reste
de la population.
Oui.
Ouais.
Avant qu'on se quitte, Lucas, j'ai lu aussi le maire de Myon, c'est près de Lyon, qui s'appelle Cohen, ouais, qui a dû démissionner parce qu'il recevait des menaces de mort. Vous en avez reçu aussi.
Oula, oui.
Non, mais ça dépasse l'entendement.
Alors, pour le maire de Myon, en fait, il a démissionné. Donc, il y avait des histoires d'antisémitisme, mais il n'y avait pas que ça, visiblement. La situation est un peu complexe. Après, effectivement, en France, quand on a un nom, on va dire, d'origine juive, peu importe notre pratique religieuse ou ce qu'on écrit ou ce qu'on pense, ouais, effectivement, on reçoit de plus en plus de messages haineux. Alors moi, c'est particulièrement le cas parce que je suis journaliste et que je suis un peu engagé et que j'ai un nom qui est assez connu en France sur ces questions-là. Mais on va dire, on fait avec. Ce qui était assez bizarre, c'est que quand on était enfant, en fait, on savait que des insultes comme ça arriveraient, mais viendraient de l'extrême droite, de nostalgiques de Vichy, de nostalgiques d'Hitler, de membres du Front National. Aujourd'hui, on découvre que pratiquement 90-95% des insultes qu'on reçoit, viennent de personnes qui sont plutôt positionnées à l'extrême gauche. Et puis quand on regarde sur les réseaux sociaux qui suivent, qui retweetent, c'est presque toujours des comptes de députés ou de dirigeants de la France Insoumise.
Est-ce que ça vous inquiète?
Ce qui m'inquiète, c'est pas d'avoir des responsables politiques qui utilisent l'antisémitisme pour gagner des voix. Ça, j'ai envie de dire que ça a toujours existé. Ce qui m'inquiète à l'échelle française, c'est quand même la passivité de la majorité des gens qui se taisent, qui se disent « Ah ben non, mais non, mais ça nous concerne pas, oui, mais après tout, moi je suis pas concerné, c'est pas mes affaires », mais à ces gens-là, j'essaie de leur dire, et c'est pareil d'ailleurs aux États-Unis, c'est que les personnes haineuses d'abord visent les juifs, et ensuite, c'est systématiquement c'est d'autres personnes.
Ouais,
ce sera les homosexuels, ce sera peut-être les catholiques, ce sera peut-être les gens de droite, ce sera peut-être les gens de gauche, donc quelque part, les personnes victimes d'antisémitisme, maintenant, il paraît qu'on dit antisionisme, c'est comme, je sais pas, l'avant-garde de ce qui peut, on va dire, d'une tempête qui peut arriver. Et ouais, effectivement, le fond de l'air est assez nauséabond en France en ce moment.
Et tout ça grâce, en guillemets, aux actions bienveillantes du Hamas le 7 octobre, qui a assassiné, violé, torturé des gens. Et tout ça vient de là.
En France, ça a libéré quelque chose, d'autant plus que pour la première fois, vous avez quand même un parti politique qui est la première force à gauche aujourd'hui, qui a à peu près 80 députés, qui utilise le 7 octobre effectivement des fins électorales. Et alors, ils sont très très habiles. Du reste, entre parenthèses, aux États-Unis, au Canada, la gauche, par exemple, les démocrates, n'utilisent pas l'antisémitisme à des fins électorales. Mmh. En France, avec LFI, c'est le cas. Et c'est très insidieux, c'est-à-dire qu'en fait, en France, l'antisémitisme est interdit par la loi. Mais ce que font ces partis, c'est qu'ils font... alors, je vais utiliser de l'anglais, hein, je sais, désolé Vas-y. Pour les Québécois. Ils pratiquent le dog whistle, donc c'est un phénomène de sciences sociales, qui consiste à tenir des propos qui vont être compris comme antisémites par les vrais antisémites, mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Par exemple, après le 7 octobre, vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelle Yann Braun-Pivet, qui est d'origine juive, qui va en visite officielle à Tel Aviv. Et là, Mélenchon va dire, Yael Braun-Pivet, en insistant bien sur le Braun, qui est juif, va camper à Tel Aviv. Donc les gens comprennent bien que dire qu'on va camper à Tel Aviv, c'est le cliché du juif qui n'est pas français, qui est apatride, qui était très utilisé par l'extrême droite dans les années 30. Et après, lui dit, mais non, mais alors ça veut dire que si je dis que je vais camper dimanche, je serai antisémite. Vous voyez, ils font ça tout le temps.
Ah, c'est dégueulasse. C'est franchement, Mélenchon, c'est un être dégueulasse. Sincèrement, je le vois à distance. Mais là, ça met en danger sérieusement la vie et la santé des Juifs en France.
Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, effectivement, en France, on mesure les actes anti-religieux, donc les actes contre... les musulmans, les juifs, les catholiques, et je crois que il y a eu autant d'actes antisémites du 7 octobre au 1er novembre, par exemple, que sur toute l'année 2022.
Bon, Lucas, faut qu'on se laisse. Lucas Jakubowicz, bonne chance, ne lâchez pas, puis j'espère qu'on va se reparler sur la situation.
Oui, après, je reste plutôt pessimiste, je me dis que les Français sont pas si bêtes, qui comprennent bien ce qui se passe, qui sont manipulés. Et... voilà, moi, je reste optimiste.
C'est bien. À la prochaine. Merci.
Et peut-être, juste dire un dernier truc en 10 secondes, parce qu'on parle effectivement de la passivité du corps enseignant face à l'antisémitisme. Par contre, dans les entreprises en France, il y a vraiment énormément de choses qui sont faites. En gros, un salarié qui dit des trucs antisémites sur les réseaux sociaux et qui se fait capter, il est viré dans la foulée.
Ah bon.
Donc ça rassure aussi.
C'est bon. Merci. Voilà. À la prochaine.
Merci à vous. Merci. Au revoir.